Donc, on va voir ensemble les enseignements autour du tabernacle de Moïse. Alors, donc, la question qu'on peut se poser avant qu'on étudie le tabernacle, mais pourquoi et comment le tabernacle du désert? Pourquoi? Pourquoi ce tabernacle a-t-il été donc fondé? Alors, il faut remonter très loin dans l'histoire. Très loin dans l'histoire. Et on va lire un passage de la Genèse. De la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Mais le mot que j'ai souligné, c'est que Dieu a voulu que nous soyons créés à son image, à sa ressemblance. Et ça, c'est fondamental. Et un autre passage qui suit d'ailleurs nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, la pensée de Dieu, c'est de créer un homme, une femme, à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il va former de la poussière de la terre, il va souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme va devenir une âme vivante. Autrement dit, l'homme a été entièrement équipé, la femme aussi, pour pouvoir avoir avec Dieu une relation. Toute l'histoire de l'humanité, de tout ce qui s'est passé, dépend de ces versets. Dieu a voulu, dans sa sagesse et son amour, créer quelqu'un qui puisse avoir avec lui des capacités de communion. Voilà quel était le but de Dieu quand il a créé l'être humain. Avoir avec l'homme, la femme, une relation. Si l'homme et la femme étaient complètement différents de Dieu, et s'ils n'avaient pas ces capacités, pas de communion, pas de relation. Dans sa sagesse donc, et son amour pour sa créature, Dieu a donc donné à l'homme et à la femme certaines capacités qu'il possède lui-même. Bien sûr, les capacités que Dieu possède ne sont pas omnipotence, omniscience, etc. Ça, c'est des qualités purement divines. Mais celles qu'il nous a données, il les possède lui-même dans cette vision de cette relation. Ceci explique tout. Toute l'histoire, le désir de Dieu d'avoir une relation avec l'être humain, donc avec chacun de nous. Avec chacun de nous. C'est ce que Dieu veut. Et vous voyez, nous ne sommes pas qu'un numéro comme un numéro de sécurité sociale. Quand il nous a créés, c'était avec un but précis d'avoir une relation avec chacun. Donc, capacité de volonté, de vision de l'avenir, de faire des choses, de créer, etc. Capacité d'intelligence, bien entendu, toutes les capacités intellectuelles que nous possédons. D'ailleurs, quand Adam a donné un nom à tous les animaux, vous vous rendez compte? Mais de l'intelligence, et puis de la volonté, ça a été mangé. Et enfin, le troisième, c'est capacité émotive, aimer, apprécier, goûter. Et ces trois qualités, V-I-E, ben c'est facile à se rappeler, c'est dans le Nouveau Testament les termes vie ou âme qui traduisent le grec psyché. C'est-à-dire que quand on veut se rappeler globalement des capacités d'être humain, des capacités de son âme, puisque c'est une âme vivante, bien rappelez-vous, V-I-E, vous avez une composante principale des capacités humaines et que Dieu a aussi bien sûr. Et d'ailleurs, si vous connaissez le grec, moi je ne connais pas le grec. Mais bref, psyché, le psychanalyste, tous ces mots, c'est âme. Mais quelquefois, c'est traduit par vie. Ou l'un ou l'autre. Donc vous rappellerez comme ça de ses capacités. Donc le Seigneur Dieu, le Créateur, a donc donné à l'être humain les capacités nécessaires pour pouvoir avec lui une relation, une communion harmonieuse dans un partage. Ça, c'est très important. Moi, je suis d'origine catholique. Pour moi, Dieu était sur un nuage très haut. Très haut. Très, très haut. Il vient de la terre. Il me regardait peut-être, oui, bien sûr. Quelle était la relation avec moi? Aucune relation. Je n'avais aucune relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que n'ayant pas de relation avec Dieu, on a voulu avoir une relation avec quelqu'un de plus proche, avec le Christ. Oui, mais le Christ est encore trop loin. Alors, on va avoir une relation avec les saints et les anges. Vous comprenez la dégringolade? Mais Dieu veut que nous ayons une relation avec lui, et avec lui seulement, ou avec le Christ, bien sûr, puisqu'il est Dieu. C'est le but de la création, avoir un face-à-face avec celui créé à son image, à sa ressemblance. Cette volonté de Dieu est tout simplement merveilleuse, n'est-ce pas, et pleine d'amour, ce qui lui explique toute l'histoire de l'univers. Malheureusement, vous savez tout ce qui s'est passé, lorsqu'ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, donc on voit cette relation. Malheureusement, la chute est intervenue, et cette relation a été brisée, et la preuve en est, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Dès qu'il y a eu rupture, cette relation a été complètement brisée. Et aujourd'hui, dans notre monde, eh bien c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Les gens n'ont plus de relation avec Dieu. Et quand on parle de Dieu, vous verrez que souvent leur relation, c'est de se cacher, de se retirer. Combien c'est-il. Mais c'est à nous de leur dire que Dieu est un Dieu qui les aime, qu'ils a créé pour un but, d'avoir une relation avec lui. Ça, c'est très important. Avant peut-être d'annoncer l'évangile, il faut peut-être mettre les bas sur les pieds, les points sur les i, de façon à ce que ces choses soient bien comprises. Dieu t'aime. Il va avoir une relation avec toi. Ce sera le titre d'ailleurs de la prochaine convention qu'on va avoir, avoir une vie commune avec lui. Une vie importante dans sa présence. Donc là, malheureusement, à cause du péché, et vous savez la suite, ils ont été chassés de la part devant Dieu. C'est vraiment terrible. Parce que Dieu ne voulait pas ça, bien entendu. Donc le péché de l'homme va entraîner une séparation irrémédiable entre le Créateur, trois fois saint, et sa créature. Terminé. L'histoire de l'humanité pourrait s'arrêter là. Dieu a chassé du paradis à Noël. Alors, sur avec les hommes, et nous, descendons d'un arrière, et qu'on soit la cause de notre peau, on a tous un ancêtre commun. Donc, on a aussi en nous le péché. C'est ce que l'Épître aux Romains nous explique. Comme un seul a péché, tous ont péché. Et puis, nous continuons à pécher aussi. On ne peut pas dire c'est un arrière, la faute. Non, c'est que nous, on continue. On continue à pécher. Et le salaire du péché, c'est la mort. Hein, vous connaissez ce verset dans Romains 6. Donc, non seulement nous sommes séparés, mais nous sommes devenus mortels physiquement et spirituellement. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dit, dans Ésaïe 59:2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est terrible, hein? C'est terrible. Qu'est-ce que la fête d'après vous? Laisse tomber la fête pour vous. Ça serait mal de nous connaître. Est-ce que ce désir de Dieu d'avoir une relation bénie, heureuse avec sa créature est un projet définitivement stoppé, abandonné à cause de ce fiasco humain? Alors, ce n'est pas dans l'Ancien Testament qu'on a la réponse, mais c'est dans le Nouveau Testament. Mais, ça, j'aime ces versets. Ça, c'est des versets merveilleux, Ephésiens 4, Ephésiens 2, pardon, toute la suite. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Et juste avant, Paul rappelle dans quel état nous sommes, et nous sommes tous sous la colère de Dieu, mais notre Dieu n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire. Il va continuer. Mais à cause de son grand amour envers nous, il va nous faire comprendre quels sont les besoins de Dieu pour que nous puissions avoir à nouveau une relation avec lui. Alors, on va continuer un peu l'histoire quand même. Donc, le peuple juif va être donc pendant 4 siècles en Égypte. Au début, ils n'étaient pas très nombreux, 70, si je ne me trompe pas. Et puis après, le peuple continue à grandir. Et le nouveau pharaon, une espèce d'antéchrist quelque part, va vouloir détruire ce peuple. Vous connaissez l'histoire, Moïse, etc. Je passe. Et donc là, le Joseph, c'est lui qui a pris le premier, puis après Moïse. Et donc on a donc ces 4 siècles. Et puis, vous connaissez la Pâque, on fêtera bientôt la Pâque, pour souvenir justement du salut proposé par Dieu. Et puis ensuite, donc, la mer des Jaunes, l'ouverture de la mer des Jaunes, vous connaissez la mort et tout ça. Et puis donc, on arrive au désert. Dieu a libéré son peuple, et puis donc, le peuple va rester 40 ans dans le désert. Et dans le désert, il y a une chose merveilleuse, c'est que Dieu veut parler au peuple juif. Il ne veut pas le peuple. Il a sauvé le peuple juif alors que le peuple juif ne l'aime pas spécialement. Le cœur du peuple juif est rempli d'idoles. D'ailleurs, démonstration, l'histoire du veau d'or. Dès qu'ils ont un peu paniqué parce que Moïse n'était plus là, ils ont dit à Aaron, faisons un veau d'or, c'est-à-dire le bœuf Apis, qui est une des grandes divinités. D'unité du peuple égyptien même. Bon, regardez ça, c'est pas ça. Et donc, après ces 4 siècles, ces 40 ans, pardon, ça suffit, hein, ces 4 siècles, c'était là. Là, c'est 40 ans, donc après, il y aura la conquête de Canaan, voilà, vers 1450 avant Jésus-Christ, avec Josué. Voilà, avec Josué. Et donc, ça, c'est une autre histoire, mais c'est pas le principal. Ce qui m'intéresse, c'est cette période-là. Voilà. Et vous voyez, tout ce qui s'est passé dans le désert, vous le trouvez dans l'Exode, dans Lévitique, dans le Théronome, pour l'Ancien Testament, et je vous ai dit tout à l'heure, dans le Nouveau Testament beaucoup, et aussi dans l'Épître aux Hébreux. Donc Dieu va entendre les souffrances du peuple juif en Égypte, de la descendance d'Abraham et de Jacob, avec laquelle il a fait une alliance. Ah oui, très important. C'est que Dieu avait fait une alliance avec les trois qui sont nommés. Et Dieu, pareil, c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire, il a fait une alliance avec les trois, et donc il veut continuer cette alliance. Il veut continuer cette alliance. Et c'est beau parce que cette alliance, elle existe aussi avec nous, en Jésus-Christ. Quel est encore? Bon, ça c'était l'ancienne alliance, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, complètement différente, beaucoup plus grande. Il n'est plus trop heureux, toutes les différences entre les deux. Dieu va intervenir et va confier cette mission de libération à Moïse. Malgré l'opposition de Pharaon, Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte. C'est l'Exode. Alors, voilà le peuple juif, ça c'est des dessins qu'on peut voir aujourd'hui en Égypte. Hein. Donc ils étaient levés pour faire leurs briques, ils avaient vu ces passages, et Pharaon leur donne de plus en plus de difficultés. C'est terrible, ils sont esclaves. Ils sont esclaves, littéralement. Comme nous sommes esclaves du monde. Parce que le parallèle entre Pharaon et le monde aujourd'hui, il est facile à faire. Il est très facile à faire. Dans Deutéronome 4:20, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Et dans le Nouveau Testament, c'est arraché de ce présent siècle mauvais. Pour que vous soyez un peuple qui lui appartient en propre. Dieu veut donc, après avoir eu des alliances avec des hommes, il y en a eu trois, Il veut absolument avoir un peuple. Un peuple qui lui appartient. Mais quand on connaît l'état du cœur du peuple juif, ben ils sont loin de faire mesure, hein, je vous dis. Comme des prophètes. Mais Dieu veut avoir un peuple qui lui appartient. Pourquoi ? Pour la fameuse relation dont on a parlé. Mais pour nous, c'est quand même. Regardez dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 4. Christ s'est donné lui-même pour nous pécher, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Vous voyez le parallèle ? Mais ce n'est pas tout. Vous avez, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, nous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Donc toute l'histoire du tabernacle est une présentation, quelque part, de ce que Dieu veut faire plus tard avec nous. C'est pourquoi le tabernacle. On ne peut pas commencer l'histoire du tabernacle si on n'a pas la vision du plan de Dieu. Et, bien entendu, de la sainteté de Dieu. Donc, nous sommes un peuple, vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien sûr, par Christ. C'est pas parce que nous sommes devenus des gens. Sans le Christ, nous ne serions pas avec nous. D'ailleurs, dans ce passage de l'Épître de Pierre, c'est tout à fait extraordinaire de voir le parallèle encore. D'ailleurs, quand Pierre parle de ça, il fait une référence à l'Ancien Testament. Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Exactement la même formulation qu'on a vue pour le peuple juif. Dieu va avoir un peuple à lui, son peuple. Et il nous a choisis pour faire partie de ce peuple. C'est extraordinaire de voir la pensée de Dieu. Il y a des choses que j'aime dans le livre, j'aime beaucoup la Bible. C'est les fils rouges. C'est les choses qu'on retrouve. Alors, bien entendu, quand on connaît un peu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on les voit, ces fils rouges. Ce désir de Dieu d'avoir un peuple, d'avoir une relation avec l'être humain, qu'il voulait au départ, dans la Genèse. Donc, un peuple qui lui appartienne. Nous sommes des peuples différents, pour venir de différents endroits. Ça, c'est pas important. Nous sommes le peuple de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans le peuple de Dieu. Nous avons toujours la tête sur terre, dans ce pays, dans ce monde. La tête sur les épaules, mais le cœur auprès du Seigneur. On l'a chanté.
Amen.
Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Parce que ça, c'est ce qu'on verra demain après-midi. Le désert. Le désert. Il y a un verset merveilleux. Dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14, Dieu connaît son peuple. Il sait que son cœur est rempli d'idoles. D'ailleurs, ça, c'est une idole qui m'appelle, je ne vois pas. Non, c'est simplement mon écoute, parce que c'est passé un truc étonnant aujourd'hui. Ce matin, un coup de téléphone, ma fille habite à Avignon, il est impossible de la maîtresse est malade, donc, on l'appelle Mamiko. Mamiko, tu viens au secours ? Pour faire du babysitting. Pourquoi ma femme n'est pas là aujourd'hui, parce que d'habitude, là, j'ai perdu la moitié d'un bras. Donc, Dieu a cette pensée d'un peuple dont le cœur est rempli d'idoles. Qu'est-ce qu'il va faire ? Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu veut manifester qu'il est bien plus important que toutes les divinités d'Égypte, qui ont des têtes d'animaux d'ailleurs, c'est bizarre, comme ça. Mais comment vas-tu faire? Tu pourrais dire, c'est comme ça, maintenant je suis Dieu, je suis ton créateur, tu te tais, t'écoutes et t'obéis. Dieu va parler au cœur de son peuple, au cœur d'Israël, du peuple juif, pour que le peuple juif l'aide. Retire et oublie autre chose. Mais c'est ce que Dieu fait avec nous. Vous avez déjà été au désert avec le Seigneur? De temps en temps, il le faut, hein, que dans notre monde, le Seigneur, Seigneur Jésus, elle est très souvent dans le désert, justement, pour être un peu libre par rapport aux apôtres, par rapport au monde qui le suivait et tout, pour pouvoir avoir un moment de prière, de relation. La prière, c'est bien d'autre qu'une relation. Hein. Il ne faut pas avoir un aspect magique à la prière, comme malheureusement, trop souvent, on croit, hein, surtout quand on est dans l'Église catholique, hein, on récite de Notre Père, des Jésus, de Marie. Je débitais ça quand j'étais gamin, j'attendais vite fait pour aller jouer aux billes avec les copains. Bon, il fallait que je trouve un petit péché, parce que sinon, c'est pas. C'est une chose quand même. Quand t'as fait le temps, tu le citeras, ça, c'est ça. Quand plus tard, dans l'évangile de Matthieu, j'ai vu le Notre Père, paf, le coup. J'ai dit, c'est dans la Bible, ça. Alors après, j'ai un respect autre pour cette fameuse prière, mais c'est un exemple. Il ne faut pas réciter ça. Donc Dieu veut parler à notre cœur. Il veut nous dire, je t'aime. Laisse tomber tes idoles. D'ailleurs, il ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose dans ta vie. Mais quelles sont nos idoles? La pire des idoles, c'était dans la vie, dans le Nouveau Testament, c'est l'argent, Mammon, le dieu Mammon. Et puis il y en a d'autres. Alors quand on fait chez lui, l'autre idole, lui qui va, tu vois, il y a ça qui m'empêche vraiment d'avoir des relations avec toi. Tu me dis, tu m'aimeras de tout mon cœur, de tout ton cœur. Ben, si là-dedans il y a des idoles, ça va bousculer. Ça va bousculer. Alors, dans le désert, Dieu va donc faire comprendre à son peuple le besoin de la sainteté nécessaire pour pouvoir s'approcher de Dieu. Les 10 commandements qui vont être donnés, ce n'est rien d'autre que de faire connaître à l'homme, 1, la relation verticale avec Dieu, 4 commandements, et ensuite la relation horizontale entre nous, les 6 commandements. Rapidement, vous le connaissez, je pense. Voilà. Donc, les lois relatives à Dieu, pas d'autre Dieu, pas d'idole, pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment, surtout pour tromper, et puis observer un jour de repos pour nous, c'est le dimanche, le jour de la semaine, le jour de la résurrection. Donc, ça, c'est les commandements que Dieu nous donne pour avoir une relation avec lui. Bien sûr, c'est des commandements, on n'aime pas trop les commandements. Mais ces commandements, en réalité, si on les regarde de près, je les étudie, je dis peut-être, c'est les garde-fous. Tu n'auras pas d'autre idole, c'est un garde-fou. Et les garde-fous, vous savez à quoi ça sert? À garder les fous. Voilà, donc c'est bon pour nous. Hein. Et puis, après les 4 commandements dans la relation entre Dieu et nous, il y a donc les 6 suivants. Voilà. Honore ton père et ta mère, pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, et pas de convoitise. Ah, convoitise. C'est évident que si ces 10 commandements étaient d'une application dans la vie des hommes, de la culture, ça serait déjà la paix sur la terre. Malheureusement, c'est pas le cas. La convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Sa femme, mais en adultère en France. Bref, rien ne se lui appartient. Voilà. De toute façon, un chrétien, je pense que si le Christ est vraiment son tout suffisant, merci Seigneur, j'ai une maison, voiture, 2 voitures, même. Bref. Mais ça, c'est pas important. De toute façon, Le jour, vous faites tout à l'heure, vous êtes enlevé, mes voitures. Oh mon Dieu, ma maison. Surtout que l'Épître de Pierre nous dit que tout ça, ça va être détruit. Heureusement que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin, mais je ne serai pas fâché du tout de quitter toutes ces choses. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Mais c'est ce qu'on dit. Et j'ai vu ce qui se passe. Hein. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Donc la loi a un but. Il faut comprendre le but de la loi, parce que ça s'inscrit dans le désir de Dieu de nous faire venir jusqu'à lui. Montrer la nature et la sainteté du Dieu créateur. Donc au travers de la loi, Dieu nous montre sa sainteté. Nous n'avons pas l'idée exacte de la sainteté de Dieu, ni vous, ni moi. Nous la découvrons peu à peu, mais c'est tout un travail. C'est pas qu'avec des commandements. Vous savez que le peuple juif, en lisant donc tous les livres de l'Ancien Testament, ils ont dénombré 613 commandements. 613 commandements. Alors il y en a une chose un peu compliquée à comprendre, 613. Et le rabbin Nanterre, avec lequel je discute un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tous ces commandements te permettent d'aimer Dieu? C'est tu fais ou tu fais pas. Tu fais pas 365, tu fais comme je vous l'avais dit. Et le reste, la soustraction, c'est tu fais. Des choses complètement étonnantes. Par exemple, ne pas avoir un habit fait de lin, qui vient du sol, de laine, qui vient d'animal. Vous comprenez pourquoi? Pas évident. Et oui, mais c'est écrit. Mais eux, ils sont très branchés sur les commandements, 613. Mais ça, c'est pas ça qui nous est. La deuxième chose, nous convaincre que nous sommes incapables de respecter la loi de Dieu. Incapables. Ce que la Bible nomme d'une manière générique le péché et sa conséquence, notre condamnation. Ça, disait l'histoire. Nous sommes incapables de respecter la loi de Dieu.
Jean-Job était un homme juste et adoré.
Et le jour où il a compris la sainteté de Dieu, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Voilà, bravo. Donc vous voyez, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose que nous devons dire, Seigneur, montre-moi ta sainteté. Parce que plus je comprends ta sainteté, plus je peux changer et devenir comme toi. La sanctification, c'est un autre sujet très important, mais tout ça, c'est très important aussi. Et enfin, comme Job, elle nous conduit à comprendre notre besoin de rédemption pour être en paix avec Dieu. Le péché me montre ma nature, non la loi. Job, il a compris, malgré que c'était un homme intègre et juste, pas mon cas, il a compris qu'il avait besoin d'un rédempteur. Et à un moment, à la fin du livre, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est-à-dire qu'il a compris que même si c'est un homme bien, il avait besoin de rédemption et il a compris qu'il y avait un rédempteur pour lui, comme pour nous. C'est incroyable comment cet homme, au travers de ses souffrances, a compris des choses extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires. Il y a un amour entre Dieu. L'amour entre Dieu et Job, c'est quelque chose d'étonnant. Job a jusqu'à dire, je sais que le jour où je mourrai, si je mourrai, physiquement, hein, tu seras triste. Parce qu'il n'y aura plus, pour l'instant, cette relation. La loi de Dieu tient tout dans l'amour. C'est dans l'évangile que Jésus-Christ déclare, on a les 10 commandements. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, tu es semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ce deux des commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si ce soir, le Seigneur parle à nos cœurs pour nous montrer sa sainteté, pour nous montrer à quel point nous sommes malsains à ce niveau-là, ben, je pense que ce serait déjà une grande chose. Alors, la deuxième chose que Dieu va annoncer à Moïse, Dieu dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, vous voyez, le projet de Dieu, c'est bien d'habiter au milieu de son peuple, quel que soit l'état de son peuple. Bien entendu, quand on lit l'Exode, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Dieu va être terrible, là, avec son peuple. Terrible. Il faut dire qu'il est dur. Il est dur, c'est un peuple dur. Vous savez pourquoi Dieu l'a choisi? C'était qui? Parce que tu as un peuple pour aide. Moi, à ta place, j'aurais choisi les Suisses. Ça peut être dit tranquille. Non, Dieu a choisi un peuple pour aide. Il faut bien montrer que si tu fais grâce à eux, ben, tu peux faire grâce à des autres. Donc, Dieu veut un sanctuaire et Dieu veut habiter au milieu d'eux. Dans le désert, ça a été terrible, il y a eu des moments terribles. Hein. À un moment même, c'était tellement terrible que Dieu a dit à Moïse, je vais supprimer ce peuple. Et ce sera ta descendance qui sera le nouveau peuple. Moïse a dit, si tu fais ça, tous les ennemis vont le savoir et tu vas passer pour un. Et il dit, et ça c'est extraordinaire, je préfère que mon nom soit rayé du livre de vie, c'est-à-dire que je ne connaisse pas. Le pareil, plutôt que tu fasses ça. Un jour, on discutera avec Moïse. On discutera avec Moïse. Avec Job. Quel personnage que vous aimeriez rencontrer dans l'éternité, parce qu'on pourra se communiquer. Je pense que vous avez compris ça. Non, vous avez des noms déjà en tête? Moi, j'ai déjà connu 5 siècles avec eux. Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Nicodème. Alors j'aime beaucoup Nicodème. Bon, chacun son truc. Bon, donc, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et Dieu va lui dire, Moïse fut divinement averti lorsqu'il avait construit le tabernacle, et soin, et puis tu le dis, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Autrement dit, ça veut dire que Dieu, au travers du tabernacle, c'est une leçon de choses quelque part, a tout prévu, même les moindres détails, de façon que tout soit un symbole, un, de la personnalité de Dieu, et puis aussi, bien sûr, mais ça c'est surtout l'épître aux Hébreux qui nous explique, un chemin pour aller, ça c'est ça, demain. Alors, Dieu va habiter au milieu des hommes, d'abord au milieu d'un peuple terrestre, Israël, ce qu'on verra demain, mais aussi sur terre, sous une forme humaine, visible, dans la personne du Fils. Le Christ a habité, c'était un temple, il a habité au milieu de nous. Dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, il a dit, c'était, il a tabernaclé au milieu de nous. Et puis, bien sûr, le troisième, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, en esprit invisible, au milieu d'un peuple nouveau, céleste, l'Église, commence maintenant, mais qui se terminera quand on sera tous ensemble au point du Seigneur. Donc on voit ce désir de Dieu. J'aime ça, parce que il avait dit quelque part, ou quelque chose au départ, dans la jeunesse, et il n'a pas lâché l'affaire. Bon, c'était pas très joli, mais c'est quand même comme ça. Ce sanctuaire, le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu qui va révéler sa nature, sa sainteté, sa gloire. Aussi, la splendide annonce prophétique de la personne et de l'œuvre du Messie, le Seigneur Jésus. On verra donc ces choses demain, il n'y a pas demain. Troisièmement, la parfaite illustration du chemin qui permet à l'homme d'aller jusqu'à Dieu. On verra ça aussi. Et enfin, l'Évangile, parce que c'est l'Évangile. On appelle l'Évangile son brise. Parce qu'il y a tout, ce qui est nécessaire pour l'Évangile. Ah, c'est fini. Avez-vous des questions? Il n'est pas trop tard. Bon, vous ne sortirez pas s'il n'y a pas une petite question. Vous savez, je ne fais pas vraiment attention, je vous ai. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. C'est clair? Vous avez compris? Ah, ouf!
C'est pas vrai que il était obligé de le fermenter au deuxième pour se parler.
Excuse-moi, le masque que je
vais vous envoyer. Pourquoi il est obligé de le commenter au désert pour qu'il puisse croire en sa parole?
Oui, parce que dans le désert, c'est ce que j'ai dit, il voulait parler au cœur du peuple. Non, c'est pas ça?
Non, j'ai dit pourquoi il était obligé de le commenter au désert pour le faire croire en.
Alors, qui? Le désert est un lieu. Le désert, c'est un lieu. Moi, j'ai jamais été dans un désert. J'ai des amis qui ont été dans un désert, mais ils ne réfléchissent jamais autant. Parce que tu n'as pas de bruit, tu as la voûte céleste qui est superbe et tout. Et puis c'est un lieu spécial. Moi, je ne sais pas, les gens qui sont mariés parmi nous, de temps en temps, leur chérie, ils aiment bien, ils ont un peu chicane. Pourquoi en parler? Donc, le désert est un lieu particulier. Mais normalement, ils devaient rester 2 ans. Mais à cause de leur désobéissance de l'histoire, les espions ont été à Jéricho, ils ont dit, et bien ils sont restés 40 ans. 40 ans. Une génération. À part 2 ou 3, Moïse, Aaron, et puis Caleb, oui, et puis peut-être un autre. Ben oui, bien sûr. Josué, voilà. Il y a peut-être d'autres. Sinon, toute la génération, toutes ces générations, est morte dans le désert. Et ça, c'est parce que vraiment, c'était l'histoire du vaudeur, on en a parlé, l'histoire des serpents brûlants et tout. Enfin bon, ouais, ça c'est dans le livre de Jean, c'est extraordinaire. Le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de même que le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le serpent a été maudit, et lui, il a été maudit à cause de notre péché. Et tous les parallèles qui existent dans la vie. Pourtant, ça a été écrit sur des dizaines de siècles. Dizaines de siècles. Par une quarantaine de personnes différentes qui ne se connaissaient pas. Par des Africains. Moïse est un Africain. Moïse est né en Afrique, il a vécu en Afrique. Des Asiatiques. Des Européens. Et pourtant, il y a une unité suivante extraordinaire. J'aime la parole de Dieu, parce que c'est vraiment la parole de Dieu. D'autres questions? J'ai répondu, j'espère.
Merci.
Bon, si c'est bon pour vous, c'est aussi bon pour moi. J'espère que...
Oui.
Oui.
Nous voulons savoir... Comment pouvons-nous expliquer cette relation de Dieu avec Moïse, qui arrive même à écouter Moïse, même quand il devait agir, Moïse l'a dit, comme conseiller, et puis il a laissé tomber.
Alors bon, Moïse c'était quand même un amour du commun. Je sais qu'un rabbin m'a dit que Moïse était toujours en train de contester Dieu, ah bon. Bon, je n'ai pas compris tellement, je dis quand, vous. Alors, monsieur, il y a toujours l'épisode qui a frappé 2 fois le rocher. Moïse s'est mis en colère. Mais Dieu lui-même s'est mis en colère. Si vous lisez. Alors, la colère de Dieu, c'est une sainte colère, comme il est écrit. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu est obligé d'intervenir. Il est intervenu avec le déluge. Il est intervenu ensuite, c'est Dieu qui a frappé pour le déluge. Ensuite, pour les tribus qui vont être chassées de Canaan, pourquoi ces tribus vont-elles être chassées? Et quand on lit les livres, on trouve que c'est terrible. Ces tribus-là avaient des dieux où on offrait des enfants en sacrifice. Et à un moment, il dit l'abomination de ces gens-là n'est pas encore à son comble, et donc il va se servir quelque part du peuple juif pour détruire tous ces peuples, dont un c'était le dieu Moloch, on mettait des enfants vivants dans le feu, et on a retrouvé en Canaan des cimetières d'enfants, ce qu'il en restait. Donc, cette colère de Dieu, je dis qu'elle est bonne, elle ne mettrait pas. Un chrétien n'a pas été effrayé dans la crainte de Dieu, c'est bien, il n'a pas la peur, parce qu'il sait très bien qu'il est passé d'un royaume à un autre. Il est passé de la mort à la vie. On a lu un verset tout à l'heure qui est très important, la seconde mort. La seconde mort, oui, il y a une seconde mort. La première mort, là, tout s'est passé, la mort physique, mais il y a aussi une seconde mort, c'est la mort spirituelle, et c'est celle qui conduit en enfer. Mais nous, qui sommes nés de nouveau, eh bien, nous échappons à cette deuxième mort. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Mais avec toutes ces choses, bien, je vais arrêter. Si je suis sur mon
corps, surtout la proximité que vous dites avec Dieu, le connaître.
Oui, face à face.
Vous savez comment il a réagi, il avait quand même écouté dans ta compassion, dans ta bande-vie.
Ah oui, Moïse avait été humain, donc il avait aussi besoin. Enfin, je ne me fais pas de soucis pour Moïse parce que dans le Nouveau Testament, on retrouve. Oui.
Voilà. Donc, on peut dire comment ça se fait, comme toi t'as dit, c'est parce qu'ils avaient des idoles. Et pourtant, avec Israël, ils avaient des idoles. Les Égyptiens, ils n'ont pas agi de la même façon.
Non, non. Mais c'est-à-dire que, si tu. Je l'ai dit tout à l'heure, le peuple juif avait, je vais dire, une chance, entre guillemets, mais énorme, c'est d'être les descendants de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. S'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas. Mais parce que Dieu était fidèle à son alliance, d'ailleurs il le dit, il a vu la souffrance des descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, et il est intervenu. Ce n'est pas parce que c'était un peuple meilleur qu'un autre, mais comme Dieu a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et avec sa descendance, il a été jusqu'au bout. Même si c'était devenu un peuple retors, dur. Moi, je sais, quand je discute avec les rabbins, des fois, ça me prenne la tête, entre guillemets. Parce que c'est complètement. Non, ils ne connaissent pas la Bible. Les catholiques ne connaissent pas la Bible, quand tu es catholique. Vous parlez de la Bible, je pense que c'est. Les musulmans ne connaissent pas le Coran. Moi, j'ai eu le Coran deux fois, je voulais dire, passer des jours et des jours pour décrypter, pour essayer de comprendre. Je discute avec des musulmans, ils me disent tout, ça, c'est pas dans le Coran. Ah bon? Dans quelle sourate tu mets ça dans, je sais pas, ça. Mais, donc c'est dire de discuter avec des gens qu'on était, tous ces gens-là sont la grande majorité sont des ignares. C'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est des gens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Donc quand on veut discuter avec eux, on ne peut pas parler trop de leurs livres sacrés. Ils ne le connaissent pas. C'est dur, hein. Mais bon, Dieu les aime. Et Dieu a un projet pour eux, c'est ça qu'il faut important. Hein. Dieu a un projet pour toi. Voilà, il veut avoir une relation avec toi. Et s'il n'existe pas, c'est à cause du péché. Après, tu peux y aller franco.
En sachant que l'intervention de Dieu, on voit aussi l'amour de Dieu qui encercle son peuple, il est dans un endroit, Canaan, et il enlève tous ceux pour qu'ils puissent vraiment avoir cette relation.
Oui.
Parce que dans le cœur de l'homme, s'il y a quelqu'un autour de nous, on ne peut pas avoir cette relation. Mm. Voilà pourquoi il nous dit, séparez-vous du monde,
oui.
Sortez du monde.
Oui. Ah oui, de toute façon, c'est
lorsqu'on dit que c'est un Dieu saint et sanguinaire, Dieu il a fait aussi pour garder son peuple.
Oui, 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 oui. Ah. Malheureusement, là encore, même la conquête de Canaan, c'est pas bon. Enfin, c'est pas. Le peuple n'a pas réalisé totalement.
Il n'a pas fait.
Et malheureusement, il est dit dans plusieurs passages, ils ne chassèrent pas. Ils ne chassèrent pas les Cananéens, ils ne chassèrent pas les Philistins, ils ne pas chasser, etc. Et Dieu leur avait dit, attention si vous ne chassez pas, ce sera comme des épines dans vos yeux.
Ouais.
Et des épines dans vos yeux et des piques dans votre cœur. Et nous, c'est pareil. Il faut chasser. Et l'exemple parfait pour moi, c'est Paul, Galates 6, il dit le monde est crucifié pour moi. Alors la croix, c'est un symbole de mort par rapport à ça pour moi. Comme je suis crucifié au Dieu du monde. Normalement, le monde, avec tout son système, n'a pas, ne doit pas avoir d'impact sur nous. Mais il essaye. Il y a Satan qui est derrière, hein, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Mais un chrétien, c'est pareil, plus vous aimerez le Seigneur, plus tu seras tout suffisant, plus le reste disparaîtra. Mais quand même, il faut être fort pour dire comme Paul, on dirait si je crois, le monde est crucifié à mes yeux comme je le suis aux yeux du monde. C'est mort, c'est vivant. Alors on est peut-être mort aux yeux du monde, mais on est vivant avec Christ. Ouais. Je vois vite fier.
Et là, j'ai vu que à Canaan, le peuple de Canaan, il était là, il a eu une première chance avec Abraham.
Parce qu'Abraham est parti là-bas.
Il leur a montré la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, et personne ne l'a accepté. Ouais. Donc Dieu, quand son peuple est rentré dans le pays, il a fait même vide pour que son peuple soit entièrement en lui.
Oui, il y a cet aspect,
c'est ça. Encore le cœur.
Oui.
Et puis, les péripéties, quand Israël, dans le désert, guidé par l'Égypte, il fallait que, comme Israël, il a perdu du monde, un petit modèle, comment on est, comment on peut réagir, il fallait que Rahab apprenne cela pour qu'il puisse prendre les aussi. Ils ont tout autour. Il fallait avancer, et ça reste que j'avais trouvé dans le désert, et là, ils ont senti et fini à la brise de la colère. Ouais.
Bien, ben, je suis content de voir que. C'est bien, hein, c'est bien que c'est la réaction, ça bouge. On a vu des choses extraordinaires. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons de connaître ces choses? Des milliards d'hommes sur cette terre, mais si peu connaissent. Une année, c'est vrai qu'il y a une maçon. Et croyez-moi qu'elle ne va pas durer longtemps, la maçon. Vu ce qui se passe. Bien, je vais rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Je te loue parce que tu avais une pensée lors de la création. C'est que tu es avec chacun de nous une relation bénie. Seigneur, tu voulais avoir une communion avec nous. Quelque chose de merveilleux. Tu voulais être comme un père avec ses enfants. Malheureusement, Seigneur, à cause du péché, tout ça s'est tombé à l'eau. Mais tu es riche en miséricorde. Et à cause du grand amour de nous aimer, tu n'as pas permis que cela perdure. Et tu nous as donné en Jésus-Christ, non seulement au travers de la loi, mais aussi au travers de Christ, la relation entre ta sainteté et ton amour. Seigneur, merci pour ta parole, parce que si elle n'était pas là, on ne pourrait rien comprendre de tout ce que Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole, c'est une lettre d'amour, quelqu'un dit, c'est vrai, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous fais comprendre toutes ces choses. Nous voulons te bénir ce soir, te dire que tu es merveilleux, tu es un Dieu fantastique, tu es tellement bon avec nous. Merci aussi, j'espère que si personne ne fait partie de ton peuple, que tous ont choisi, Seigneur, de quitter ce monde, de quitter cette fournaise de fer comme était l'Égypte, pour être auprès de toi.
Amen.
Merci Seigneur, parce que tu nous as arraché du présent siècle mauvais, qui n'est pas meilleur que l'Égypte, qui est terrible, mais tu nous aimes. Et tu veux que nous soyons dans ton peuple. Dans ton peuple. Merci Père. Amen.
Amen. Amen. Merci.